Hop, c'est parti.
C'est Quentin Tello, la Switch est au micro, parlant d'informatique et d'autres trucs antiques.
On dit TIC.
Comment ça?
On dit TIC pour technologie d'information et de communication.
Non, là, tu me ruines la chanson d'intro, là.
Eh oui. Bonjour à toi, enfant du futur.
Ah, c'était la chute, ça, du jingle.
Ouais.
J'avais pas compris, ouais. Mais c'est pas grave.
Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes. Nous fêtons cette semaine les 30 ans du Macintosh.
Ah,
oui, ça fait 30 ans que Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, sortit d'un sac un appareil gros comme une petite télévision et sur une musique de Vangelis. Je l'ai pas fait exprès, tu vois, un peu Lee Child et tout le reste. Le prophète le brancha, le petit écran souris. Steve sortit de son veston une de ses nouvelles disquettes de 3 pouces et demi et il le mit juste sous l'écran dans la petite fente et l'ordinateur parla d'une synthèse vocale. Tout le monde allait retenir le premier usage obligé de la souris et surtout l'arrivée de la métaphore du GUI, l'interface utilisateur graphique. L'écran représente donc un bureau avec son sous-main, les répertoires de la disquette sont des dossiers, chaque fichier est un document de travail et la poubelle, je ne vous ferai pas un dessin, Susan Kerr est bien plus douée que moi. D'ailleurs, 20 ans plus tard, elle dessinera le pouce levé de Facebook. Oui, la métaphore, c'est l'art de vous dire qu'en bridant la liberté d'expression, on aurait forcément sauvé les auteurs de Charlie Hebdo et je... Hein, ah, mauvais exemple. Bon, pardon. Ok. La métaphore, c'est quand une disquette 3 pouces et demi représente l'action de sauvegarder ton document, alors qu'en fait, enfant du futur immédiat, tu n'as jamais vu de disquette de ta vie. Pourtant, tu sais ce que ça signifie. Là où une interface homme-machine peut être l'interrupteur marche arrêt si la boîte ronronne chaud et que la lampe est allumée, c'est que l'interrupteur est sur la position on. L'interface utilisateur graphique doit représenter sur écran des concepts complexes de la manière la plus parlante possible et donc abuse de métaphores. Donc le Macintosh fut le premier ordinateur personnel avec une interface graphique par défaut. Ceci est une révolution, a failli dire le dandy apprenti gourou. Ben pas tellement. Apple a repris les travaux du Xerox PARC, le centre de recherche du célèbre fabricant de photocopieurs. Des travaux qui ne furent jamais exploités directement par la firme, sinon par le biais d'un ordinateur, le Star 90, vendu 17 000 $ de l'époque, soit 41 000 $ de nos jours. Apple avait aussi fait un premier essai avec le Lisa, un ordinateur du nom de la fille délaissée de Steve Jobs, oui je balançais un peu closer là en ce moment, et qui valait 10 000 $ de l'époque. Alors ces deux gros bestiaux-là furent des fours, principalement à cause de leur prix. Le Mac premier du nom fut mis en vente au prix exceptionnel et absolument imbattable de 2 500 $, tout compris. Toujours de l'époque. Soit, puisqu'on parle en métaphore, l'équivalent de 8 SMIC. Cela vous donne une idée de l'informatique personnelle, justement, de l'époque. Sachant qu'on y faisait sa compta ou écrire des bouquins quand on ne devait pas développer soi-même ce logiciel. Alors, le seul jeu sur Mac était un jeu d'échecs au niveau plutôt moyen. Hello. En cette heure glorieuse, les micro-ordinateurs étaient très rarement interopérables entre eux. L'IBM PC n'avait que quelques compatibles sur un segment très haut de gamme, comprendre très cher et très frustre. La vache à lait de la firme de Cupertino, l'Apple II, rapportait des fortunes et était alors au fait de sa gloire, mais lui aussi était très frustre. Son fonctionnement imposait l'usage de lignes de commande. Très rares étaient les logiciels graphiques qui en exploitaient la souris. Oui, il y en avait déjà une, mais en option. Selon le folklore... Eugène, non. Je vous parle du site folklore.org qui raconte l'histoire de la création du Macintosh par ceux qui ont directement participé à cette aventure. Selon le folklore, donc, les différentes équipes d'Apple Company, ceux de l'Apple II, de l'Apple III, du Lisa et du projet Macintosh, se faisaient une telle guerre entre eux qu'on en vint à une stratégie de méfiance et un secret absolu entre les équipes. Ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et si le concurrent principal semblait être l'IBM PC, l'ennemi se révéla être Microsoft. Pourtant partenaire du Mac, puisqu'ils ont créé exprès pour cet ordinateur Word et Excel. On n'est jamais mieux trahi que par ses amis. Microsoft profita de l'acquis pour concevoir MS Windows et écraser d'autres concurrents dans le secteur de la fenêtre comme le Workbench du Commodore Amiga, Geos, GEM... Non, GEM, non. Pas GEM et les hologrammes, je te parle du GEM que l'on retrouvait sur IBM PC, Commodore 64 et Atari ST. Oui, t'avais déjà la chanson qui partait, et Misfits et tout le reste. Oui. 30 ans sont passés, le Macintosh et le PC sont des survivants de la foisonnante époque des 80s, période où les écosystèmes informatiques se lancèrent par camion entier, mais finirent souvent dans les bas-fossés de l'histoire des ordinateurs qui se souvient encore de Silicon Graphics, du MSX, du CPC et tout le reste. Le PC et le Mac se sont souvent tirés la bourre dans l'innovation technique. Mais pour faire encore une métaphore, dans cette course, ils se sont fait doubler par les smartphones et Internet. En ce mois de janvier 84, pour lancer sa petite merveille, Apple produisait une publicité pour le Super Bowl. Sa réalisation par Ridley Scott et sa diffusion coûtaient une fortune. Et ce film publicitaire fut tellement novateur qu'il faillit ne pas être diffusé. Ce spot célèbre met en scène une sportive courant dans une salle où la foule lobotomisée regarde béatement un ordinateur central, référence directe au Big Brother du roman 1984 de George Orwell. La dite athlète, poursuivie par des cognes prêtes à la cogner, lance dans un geste homérique un marteau pour exploser l'écran. Selon cette métaphore hollywoodienne, l'informatique personnelle devait libérer les opérateurs des grandes bases de données industrielles et laisser à chacun son libre choix. Enfant du futur immédiat, lors de la présentation avec Steve Jobs, le Macintosh recommanda de sa voix synthétique de « ne jamais croire un ordinateur ce que tu ne peux soulever ». 30 ans après, les smartphones, le cloud et le big data, prophétisés par ce même Steve Jobs, ont fait exactement l'inverse.
Oh.
Alors, je sais, c'est plein de références, mais le blog, il y a tous les liens, il y a les vidéos en question qu'on avait soi-disant perdues.
Et oui. Et... Pour moi qui ai travaillé sur un Macintosh dès 1985, même 84 d'ailleurs, voilà, donc on connaît toutes ces références, effectivement. On essaye d'entendre des petits trucs, mais... Voilà.
Ah oui, putain.
Voilà, c'est voilà.
Donc, il faut aller chercher loin. Celui-là, il faut aller chercher
loin. Ah oui, ça manquait.
Il faut aller le chercher loin. Mais en attendant, c'est vrai, il y avait plein de références. Il y a plein de choses qui ont fait que l'informatique était ce qu'elle était. Mais le monde était aussi ce qu'il était. Il y avait aussi des Minitel à côté. Il y avait plein de choses comme ça. Même c'était le Minitel arrivé juste à peine à l'époque. Donc voilà, c'était un autre monde peut-être.
Hein oui, merci. J'ai l'air d'un vieux con.